Luc chapitre 10. Évangile de Luc chapitre 10, versets 1 à 20. Luc chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Au nom de Jésus. Jésus envoie les 72 disciples. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit, « Il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. » Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour rentrer sa moisson. En route, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord « paix à cette maison ». Si un homme de paix habite là, votre salut de paix reposera sur lui, sinon retirez votre salut de paix. Demeurez dans cette maison, là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, sortez dans les rues et dites, « Nous secouons contre vous la poussière comme de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Je vous le déclare, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Sodome que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants ne se seraient assis, auraient revêtu des étoffes grossières et se seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de comportement. C'est pourquoi, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu te lèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. » Il dit encore à ses disciples, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent, quand nous leur donnons tes ordres en ton nom. » Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Après avoir lu un texte pareil sur la mission ou sur l'évangélisation, je pourrais comprendre pourquoi il y en a peu de candidats qui veulent aller dans les champs de mission aujourd'hui. Ce genre de texte ne rassure pas du tout. En Europe, où il est question de crise de vocation, de manque d'effectifs, dans la pastorale, ce genre de texte me semble un peu dur à entendre pour ceux qui sont encore en exercice et ne faciliterait pas aussi la tâche des derniers des Mohicans. Les trois premiers versets nous montrent la couleur du message de Luc. Il décrit la réalité du terrain. Luc, ici, il est conscient de la réalité. Il ne vit pas dans une forme d'idéalisme. Luc ouvre les yeux de ses lecteurs sur la dure réalité de la mission. Et nous rend conscient que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, surtout dans ce domaine d'évangélisation. Le fait déjà d'annoncer que Jésus avait fait le choix d'envoyer 72 ou 70, chaque exégète en leur avis, mais ça, ce n'est pas important, n'est pas un choix par hasard par Luc. Et si nous référons aux autres références scripturaires dans l'Ancien Testament, cela est en lien avec la réalité difficile du terrain. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, Jésus les ordonna d'aller deux par deux, avec un élément crucial mentionné au verset 1 et dans la version Chouraki, il a utilisé le mot Adon, le Seigneur vous envoie. C'est très important. Adon vous envoie. Le Seigneur désigne et c'est le Seigneur qui envoie. Et il y a un détail très, très, très important ici qui passe parfois inaperçu pour le lecteur, mais dans notre version français courant même, c'est pas clair. Deux par deux, devant lui. Mais dans la version, d'autres versions, devant sa face. Adon envoie deux par deux les disciples devant sa face. Ça veut dire quoi? Le lien avec le Adonai, sa face, septante, deux par deux. Luc, c'est un intellectuel, un théologien, donc il a un objectif derrière la tête. Au verset 3, qui dit clairement les choses, il crève en quelque sorte même l'abcès en disant que ses envoyés seront comme des brebis au milieu des loups. Vous imaginez si vous lancez une annonce ici, par exemple, au culte, qui veut aller en mission, mais voilà ce qui vous attend. Je pense que personne ne va s'inscrire. Si vous dites, ah, mais vous allez être bien, vous aurez ceci et cela, ah oui, peut-être. Quelles sont les garanties, les assurances, le salaire, indemnité, tout. Mais ici, Luc dit, voilà ce qui va vous arriver. Pour être franc, ce que nous venons d'entendre ne paraît pas être rassurant. Et je reviens à ce que j'ai dit sur le fait que le Seigneur a choisi 72 ou 70 personnes. Cela me fait rappeler les autres occurrences bibliques autour de ce nombre de personnes à chaque fois que cela a été évoqué dans la Bible. Premièrement, au temps de Moïse, lorsqu'il venait de sortir d'Égypte avec le peuple d'Israël, son beau-père Jéthro est venu vers lui pour lui donner un conseil. Il dit, c'est vrai que c'est l'Éternel qui t'a choisi, mais j'ai quand même un petit conseil à te donner. Il n'est pas bon pour toi et pour ta santé de s'occuper de tous les litiges et les conflits du peuple. Vous imaginez, du matin au soir, Moïse recevait les gens chez lui avec tous leurs problèmes. Mon voisin a piqué ma poule. Celle qui était à côté de moi a brûlé ma maison. Vous imaginez le pauvre Moïse à régler tous ses problèmes de voisinage. Donc, ce n'est pas bien pour toi de faire cela. Alors, il serait plus sage qu'il gouverne avec des anciens pour lui faciliter la tâche. Et c'est l'Éternel qui a choisi les 70 anciens. Il leur donna une partie, et c'est bien écrit, Dieu a donné une partie de l'esprit de Moïse afin qu'il puisse gérer avec lui le peuple tout entier. Voilà une histoire. Donc, en lien avec les 70 personnes, pourquoi Dieu a choisi les 70? Parce que la tâche est rigoureuse. Deuxième occurrence où on parle des 70 personnes, c'est dans Genèse chapitre 46, versets 26 à 27, je le lis au nom de Jésus. « Ceux qui vinrent en Égypte avec Jacob et qui étaient issus de lui, sans compter les femmes des fils de Jacob, étaient de 70 en tout. Les fils de Joseph qui étaient nés de lui en Égypte, deux total des gens de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte, 70. » Donc, au passage, il faut bien souligner que cette précision donnée dans le livre de la Genèse était lors d'une famine, rappelez-vous. Si Jacob a décidé de se déplacer vers Égypte, c'est parce qu'il y avait la famine. Alors les 70 personnes dans sa tribu se sont déplacées vers l'Égypte pour chercher asile. De ce fait, nous pouvons lire ce récit lucanien à travers rien qu'avec ses occurrences et mettre en exergue que le ministère de Dieu, le ministère de la parole, n'est pas facile. Le ministère de Dieu est très compliqué. Ce n'est pas facile, c'est pourquoi le Christ les envoie deux par deux. Et Jésus aussi, c'est un psychologue. Il sait bien que si l'un commence à abandonner, l'autre peut dire « Allez, courage !» Et à chaque fois, c'est comme ça. Il les envoie deux par deux pour se soutenir mutuellement face à l'adversaire. Rappelez-vous Moïse, quand le peuple d'Israël était contre le peuple les Amalékites, il était là, mais à un certain moment, les bras commençaient à descendre. Il a fallu deux personnes à gauche et à droite et lui faire asseoir sur un rocher parce que le combat est rude. Et en lisant tout le chapitre entier, nous avons l'impression comme si on lisait, moi personnellement, si on lisait un manuel de procédure où il y a les modes de fonctionnement que Jésus a mis dans la mission, les précautions à prendre. Et ce qui est frappant, je ne sais pas pour vous, c'est l'emploi à chaque fois du « si ». « Si il y a ceci, fais cela ». « Quand il y a ceci, fais cela ». C'est comme si Jésus pensait à toutes les éventualités possibles du cas par cas. Si tu arrives à vivre des choses comme ceci, voilà ce que je te conseille. Regardez, je vais prendre trois exemples. Exemple numéro un. S'il se trouve là un homme de paix, qu'est-ce que tu vas lui dire? Votre paix reposera sur lui. Deuxième cas, quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Troisième cas, mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites à tous, ainsi de suite. Donc, en lisant tous les cas possibles qui pourraient arriver dans la vie d'un messager de Dieu, le lecteur pourrait être déstabilisé ici en voyant les propos de Jésus qui ne cachent pas les éventualités d'un refus et d'un rejet. Vous allez essuyer des rejets, je vous l'assure. Jésus n'a pas du tout promis que vous serez toujours apprécié, vous serez bien reçu. Non, il y aura de la résistance. Alors il prépare le cœur de ses disciples de ces éventualités-là. Et donc il ne faut pas se décourager, car parfois le message peut passer dans une ville, ça peut passer, et dans une autre, il n'y a rien. On ne peut pas l'expliquer. Il n'y a pas de raison particulière. C'est comme ça. Il ne faut pas se culpabiliser, mais qu'est-ce que j'ai mal fait, ni se torturer l'esprit. C'est la réalité du terrain. Ce que peut encore nous choquer même un peu plus, le Christ qui accepte une telle éventualité, même lui, on l'a rejeté à un certain moment. Dans une ville, on l'a accepté. Dans une autre, on l'a dit dehors. Le Christ, alors qui suis-je par rapport au maître? Mais moi, personnellement, ce qui me fait beaucoup de bien, malgré ce tableau un peu sombre, ce qui me fait du bien dans ce texte, c'est la solidarité de Jésus avec les siens. Dans ce que nous croyons comme étant un échec, il dit, si on vous écoute, c'est qu'on m'écoute. Et si on vous rejette, cela veut dire qu'il me rejette aussi. Donc, il partage tout avec nous. Il partage sans succès, mais il partage aussi notre échec. Vous voyez? C'est ça qui est bien. Son succès, il nous le partage avec nous. Notre échec, il le prend pour lui aussi. Voilà la solidarité que le Christ a promis. Et si nous regardons bien le texte, il y a un contraste assez interpellant. Lors du retour des 70 disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait leurs rapports moraux comme on fait ici à l'église à la fin de l'année. Voilà, même le diable a accepté ton nom. La ville de Chorazine, de Bethsaida, semble ne pas être réceptif du message. Alors il est dit dans le texte que pourtant les démons obéissaient à cause du nom de Jésus. Vous voyez un peu ce contraste que Luc met en parallèle. Chorazin, Bethsaïda, les gens ont dit non. Par contre, le diable a dit oui. Dieu peut soumettre le diable et les démons sous notre autorité dans ce ministère qu'il nous a confié, puisqu'il a déjà vaincu le mal. Mais pour ce qui est du cœur de l'homme, nous n'avons aucun pouvoir sur lui. Oui ? Le diable, il est vaincu, mais le cœur de l'homme, nous n'avons aucune autorité sur ce cœur. Alors le découragement guette à chaque instant les serviteurs de Dieu, face au tempérament et à la dureté du cœur de l'homme. Et hélas, il n'y a pas de recette miracle pour faire changer les cœurs. Et c'est là le piège qui peut nous avoir en essayant de systématiser ou d'expliquer par des logiques la venue d'une personne ou d'un groupe de personnes qui vient à la fois. Parfois, on est tenté de dire « Oui, mais cette personne a dit oui au message que j'ai dit parce que j'ai fait ceci. » Non. Parce qu'il y avait un chant magnifique, donc les gens se sont convertis. Non. Parce que ce jour-là, la prédication était ceci. Non. On ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Et vous allez peut-être me dire « Mais il y a ceux qui ont du charisme. » Ne pas confondre attirer du monde pour nous écouter ou nous suivre et les gens qui viennent réellement à la foi. Il se peut qu'on peut avoir, on peut attirer une foule, mais combien parmi cette foule arrive à la foi? C'est trompeur. Donc Dieu contrôle tout, le ciel et la terre, les forces cosmiques, les forces spirituelles, tout ce qu'on veut. Mais ce qui est étonnant, Dieu laisse faire quand il s'agit du cœur de l'homme. Et là, il y a un mystère. Hier, j'avais discuté avec une cousine qui se trouve au pays. Elle a dit, « Oh, si seulement Dieu ne nous a pas donné le libre arbitre, on serait mieux. » J'ai dit, « Parle au boss. Moi, je n'ai pas de réponse à te donner. » Heureusement qu'il nous a donné le choix. Et c'est ça qui est dérangeant. Dieu qui a tout le pouvoir laisse choisir l'homme. Alors il ne faut pas se fier aux apparences extérieures, car comme dit Jérémie, dans Jérémie 17, 9, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. C'est Dieu qui parle ici. Vous imaginez Dieu qui dit, je sonde le cœur et les reins. On ne peut même pas y comprendre le cœur de l'homme, même lui il n'arrive pas. Il ne sait pas pourquoi l'homme réagit ainsi. C'est ça le mystère de l'homme. Moi, le Seigneur Yahvé, j'examine le cœur, je sens de les reins, mais au final, on ne peut rien y comprendre. Alors le message que transmet Luc est tout simple. Ne nous occupons pas de la tâche de Dieu, faire changer les cœurs. Ce n'est pas notre rôle d'ailleurs. Nous n'arriverons jamais à le faire puisque ce n'est pas de notre ressort. La seule fonction qui nous revienne, c'est d'annoncer la parole, c'est tout. Et même déjà cette responsabilité-là, il faut que nous nous demandions au maître de la moisson afin de nous envoyer des ouvriers, c'est ce qu'il dit ici, qui n'ont pas peur de l'échec et du refus. Voilà le critère, c'est un peu comme des recherches de pasteur au niveau de l'EPUB, voilà le profil, hein, il est diplômé, il a ceci, mais j'aimerais ajouter, demande au Seigneur qu'il envoie des ouvriers qui n'ont pas peur de l'échec. Parce que ce qu'on veut, quelqu'un d'efficace, non ? N'est-ce pas ? Quelqu'un qui peut galvaniser toute une foule, mais quelqu'un qui n'a pas peur du refus. Cherche-en, si tu en trouves, dit le Seigneur. C'est rare. Alors ne baissons pas les bras et rassurons-nous, même Jésus avait subi aussi un sacré revers lorsqu'il monta à Jérusalem. Rappelez-vous, voyant la ville sainte au loin, et il dit, « Oh, Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes, toi qui tues à coups de pierre ce que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je désiré te rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Et Jésus pleura ce jour-là. Deux fois seulement Jésus que pleure dans l'Évangile. Ici, et quand il était face au tombeau de Lazare. Deux fois, en voyant cette ville qu'il a tant aimée, qu'il a tout donné, mais qu'il a mis dehors. Tiens bon, malgré tout. Courage et garde cette promesse que Dieu nous donne. Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur, comme le son du cor, que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte, aux descendants de Jacob.